France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère-Dancausse.
Elisabeth, comédienne, anime des ateliers d'écriture à l'hôpital Necker à Paris avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire, son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface et avec eux, la découverte du théâtre qui un jour l'a sauvée. C'est le pitch d'un film qui vient de sortir sur les écrans, Les Rêveurs, c'est son nom. Magnifique, bouleversant, intelligent et utile. Parce qu'on le sait, la santé mentale des jeunes dans notre pays, et notamment des jeunes filles, se détériore depuis des années, alors que les moyens pour aider ces adolescents en souffrance n'ont jamais été aussi faibles. Alertée sur cette question, c'est une des volontés de la réalisatrice de ce film qui souhaite, je la cite, « faire passer un message aux jeunes qui ne vont pas bien ». Aujourd'hui impliquée dans la recherche sur la santé mentale des jeunes, mais également dans de nombreuses associations d'aide aux autres, cette réalisatrice sensible et engagée est avec nous aujourd'hui. Isabelle Carré, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être là. Merci aussi pour ce film Les Rêveurs et je le redis, bravo parce que c'est un film qui est à la fois poignant mais vraiment extrêmement utile et on va parler de ces deux aspects de votre histoire et de pourquoi de votre engagement. Et je précise que vous jouez également dans ce film,
oui.
Qui est adapté de votre roman autobiographique au titre éponyme qui était paru chez Grasset en 2018. Et pour bien comprendre tout ça, on va parler de votre histoire. Donc, vous racontez dans votre livre L'univers bourgeois bohème dans lequel vous avez grandi dans les années 70. Vous parlez de votre internement à l'hôpital Necker quand vous aviez 14 ans après une tentative de suicide. Avant même, vous aviez déjà, un an avant, été hospitalisé déjà à Necker. Pourquoi des angoisses, c'est ça?
Oui, à 13 ans, j'avais eu cet épisode étrange, je n'arrivais plus à respirer. Je coupais moi-même ma respiration, mais sans le vouloir, ce qui fait d'ailleurs peut-être un peu écho à un des personnages du film qui, lui, c'est pas sa respiration, mais c'est son bras qui peut plus bouger, il a comme un bras mort. Voilà, et c'est dans la tête que ça se passe. Ça en disait long sur mon émotivité, ma fragilité, mon angoisse, effectivement. Et puis j'y suis retournée à 14 ans, après plusieurs déceptions. Enfin, le mot est faible, je voulais être danseuse, je rêvais de danse classique, et c'était devenu une passion, c'était devenu ma bouée, en fait.
On vous a découragée?
Et on m'a découragée. C'est très dur, le milieu de la danse classique, surtout à cette époque-là. Et j'ai perdu confiance en moi. Un professeur très dur qui m'a un peu, pas harcelé, mais donné à chaque cours une vision très, très négative de moi-même. Et ça, plus un... Ça, je ne le raconte pas dans le film. Je ne pouvais pas tout raconter, évidemment. 350 pages, on ne peut pas les adapter dans un scénario. On ne peut pas tout mettre dans un scénario. Mais pour moi, le cœur du film, pourquoi? Parce que je n'avais pas, en fait, au départ, l'idée de passer derrière la caméra. C'était pas du tout mon fantasme. J'avais pas cette ambition-là. Et c'est en voyant les chiffres grimper de la désespérance psychologique des jeunes et surtout des jeunes filles, comme vous l'avez si bien dit, que je me suis dit que ça pourrait avoir du sens, effectivement, de mettre en perspective mon expérience avec ce que vivent trop de jeunes aujourd'hui.
C'est ça, effectivement, de voir votre histoire. Donc, effectivement, une tentative de suicide, vous aviez 14 ans, hein, vous avez vidé l'armoire à pharmacie familiale. Votre univers familial aussi était en cause, je disais, c'est un milieu bourgeois bohème, des parents originaux, on peut dire.
Ben, c'est-à-dire que c'était une époque où, faut remettre dans le contexte, dans les années 70, les enfants n'étaient pas au centre. On courait derrière, on accompagnait, et mes parents étaient chacun dans une démarche de chercher leur vérité, mais qui est aussi un bel exemple éducatif finalement. Voilà, mais j'avais une forme de solitude certaine, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, qu'on a remis les enfants au centre grâce à Dolto, on sait maintenant l'éducation bienveillante, à quel point il faut être attentif. Et les enfants sont bien au centre de la famille. Le sont-ils pour autant dans la société ?
Ça, on va y revenir, bien sûr. Est-ce que, juste un mot sur l'homosexualité de votre père, qui a été révélée tardivement, est-ce qu'elle a joué éventuellement dans cette souffrance éventuellement de votre père, de votre mère et de la vôtre ou pas ?
Alors, c'était pas l'homosexualité qui était en cause, mais le regard de la société sur cette homosexualité, effectivement, et la souffrance que ça a généré. Il faut rappeler que l'homosexualité a été considérée jusqu'en 1992, je crois, comme une maladie mentale suivant l'OMS. Il n'y a que quelques années que les thérapies de conversion ont été interdites. Donc, comment se construire quand on vous empêche, quand on ne peut pas être soi-même? Je pense à cette phrase de Camus, qu'est-ce que le bonheur, sinon l'adéquation entre un homme et la vie qu'il humaine. Donc cet empêchement, ces parents empêchés, oui, c'est sûr que c'était, on le ressentait. On le ressentait et on en souffrait à travers eux.
Je disais que vous aviez été internée, plutôt que de dire hospitalisée, oui. À l'hôpital Necker enfant malade. Vous allez me dire ce que vous gardez comme souvenir de votre arrivée. Dans le film, la scène est franchement violente. On vous sépare de vos parents. Ils ne pourront pas vous voir. On va écouter un extrait du film et on en reparle juste après.
Ne laissez pas. C'était la dernière fois, je vous promets. Je n'en ferai plus, s'il vous plaît. J'ai promis.
Tout va bien. Il faut que tu restes là, d'accord ? Faut que tu comprennes ce qui t'est arrivé.
Vous revenez quand ? Demain ?
Non, on peut pas. Ça fait partie du traitement.
Mais vous revenez quand ?
Mais allez, il faut y aller maintenant, ma chérie. Ça dépend de toi, du traitement, d'accord ?
S'il te plaît.
On pense fort à toi, ma chérie. Ça va aller, je te promets.
Non, me laissez pas.
Allez, tu lèves pas là. Allez.
Non ! Lâchez-moi !
Arrête.
Mais lâche-moi !
Papa ! Tu vas être mal. Viens là.
Papa, maman !
Tu arrêtes, ça va aller. Calme-toi, arrête. Tu arrêtes de pleurer. Calme-toi. Tiens, rien. Prends ça. C'est des cachets, t'iras mieux après. Je vais chercher de l'eau.
Honnêtement, moi, ça m'a tétanisée. C'est effectivement, c'est ça le souvenir de cette. Alors que vous étiez une jeune fille en grande souffrance, puisque pour faire un geste pareil, il faut être quand même très malheureux. Cette violence, on vous a séparé, ou voilà, vos parents pouvaient pas venir le lendemain, vous êtes isolée.
C'était aussi le but du film, de montrer l'évolution de la pédopsychiatrie des années 80 à aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, il y a un protocole qui n'est pas du tout le même. On interroge les enfants dès qu'ils vont mieux sur le pourquoi de ce geste. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là? Quel est leur regard après quelques heures ou quelques jours passés? Est-ce qu'ils le referaient? Surtout, c'est une bien question sûr. Fondamentale. Et à partir de là, une hospitalisation, je dis bien une hospitalisation, est envisagée ou pas? Je parlerai d'internement puisque moi, pour ce qui me concerne, dans les années 80, puisque personne ne m'a questionnée sur rien. Donc, je me suis retrouvée effectivement dans cette situation, et en sachant à peine où j'allais.
Hein. On sent vraiment que c'est plus une punition qu'on vous impose,
c'est ça,
que le personnel soignant, enfin que les médecins vous imposent, plutôt qu'un chemin pour vous faire du bien.
Oui, c'est presque plus important de comment dire, de montrer que vous avez mal fait et puis de protéger l'anxiété des parents que de soigner l'enfant et de d'essayer de comprendre et que lui-même comprenne ce qui lui est arrivé.
C'est ça, on sent qu'on s'intéresse plus aux parents qu'à vous quand même, hein.
Alors, tout ce que je raconte dans le film, c'est vraiment un bon 96% de vérité, avec mes souvenirs évidemment qui peuvent être déformés. Mais ce qui est intéressant, c'est cette sensation que j'ai essayé de restituer, tout en étant, vous disiez que cette scène était insoutenable, j'ai essayé quand même d'y aller avec douceur, parce que ce film, pour moi, je l'adresse en premier lieu aux enfants et aux adolescents. Leur dire, voilà, on peut passer par là, ça peut être très violent, ça peut être très dur, mais on peut aussi s'en sortir. C'est vraiment le message du film. Il y a des solutions, et même dans cet endroit-là qui était très différent de ce qui existe aujourd'hui, encore une fois, le protocole, il n'y avait pas d'art-thérapie, on a fait un atelier cuisine pendant plusieurs semaines, un seul. Aujourd'hui, on sait comment faire. Mais maintenant qu'on sait faire, ce que dit mon personnage à la fin, maintenant qu'on sait faire, il n'y a plus de moyens et plus de soignants. Absolument. Et voilà, et à travers ce film, je voulais passer ces deux messages. Premièrement, dire aux jeunes, et c'est pour ça que j'y vais tout en douceur, qu'on ne voit pas d'enfants contentionnés, qu'on ne voit pas d'enfants piqués, qu'on ne voit pas de corps abîmés. Je voulais les déstigmatiser, parce qu'il n'y a eu aucun film qui a jamais été traité sur ce sujet.
Ça, c'est incroyable, c'est ce que vous avez révélé après la projection du film, à la salle qui était là. Même aux États-Unis, on n'a jamais fait un film sur ce sujet.
Ben, j'ai cherché, il n'y en a pas. Il y a Une vie volée avec Winona Ryder, mais qui parle dans les années 90, mais qui parle de jeunes femmes, donc en psychiatrie. Mais un lieu, la pédopsychiatrie, ce lieu-là, il n'a jamais été filmé dans un grand film de fiction. Et c'est tellement important pour déstigmatiser ces enfants. C'est pour ça que je voulais vraiment des images douces pour même les plus jeunes, pas leur remettre la tête sous l'eau, à part cette scène qui montre la différence avec les années 80. Mais sinon, je voulais que ça montrait l'importance de l'amitié, montrer...
Absolument, vous faites des amis assez vite hein, dans cet hôpital.
Comment on se réchauffe les uns aux
autres. Qui s'appelle Isker.
Oui.
Cette solidarité entre enfants en souffrance, c'est quelque chose d'important et toujours important aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Quand j'ai fait lire le scénario, parce que j'ai montré le scénario au professeur Marie-Rose Moreau à la Maison de Solène, et puis après, plus tard, au professeur Franck Bélivier. Voilà, j'ai eu pas mal de retours. Mathias Gorog aussi. À Sainte-Anne, j'ai fait vraiment le professeur Delorme, grâce notamment aussi à la Fondation pour la Recherche Médicale, dont je suis la marraine, qui m'a aidée à faire tous ces ponts.
Nous sommes toutes les deux marraines, on est assez fières.
On est très fières. Oui, c'est une très belle... On en parlera tout à
bien
l'heure,
sûr.
Mais... et tous m'ont dit que oui, que c'était un levier extraordinaire, l'amitié toujours et encore aujourd'hui, mais encore une fois, l'art-thérapie est fondamentale. Et j'insiste là-dessus parce que maintenant qu'on sait faire, il n'y a plus de soignants, plus de moyens, en art-thérapie, on est obligé de restreindre les budgets là-dessus, alors que c'est un levier. C'est pas juste une occupation, c'est pas juste faire passer le temps aux enfants et leur occuper l'esprit, c'est beaucoup plus que ça.
Et c'est ce que vous racontez qui est aussi très positif et optimiste dans ce film, c'est que c'est à l'occasion d'un film que vous avez vu pendant cet internement, un film avec Romy Schneider, que tout d'un coup, vous avez dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui vous a sauvé quand même.
Oui, c'était une toute petite télé qu'un de mes camarades de la chambre d'à côté avait et prêtée par son père. On n'avait pas la télé, évidemment. Et puis, j'ai vu Romy Schneider. J'ai vu son émotion.
Donc,
et je me suis dit,
dans
Une femme à sa fenêtre. Oui. Et surtout, je me suis dit, mais moi qui trouve mon émotion tellement pénible, douloureuse, embarrassante, encombrante, là, elle est belle, elle était belle. Elle était magnifique dans les yeux de cette femme. Et puis, il y a eu cette phrase juste avant, je crois, de Victor Lanoux, que disait Victor Lanoux dans le film, au milieu d'un discours sur le marxisme. Alors, je sais pas comment j'ai été chercher cette phrase-là. Quand j'ai revu le film, je me suis dit, c'est fou d'avoir entendu ça à 14 ans. Préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. Et après ça, je me suis inscrite dans un cours de théâtre dès ma sortie de l'hôpital. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que les mains tendues quand on les a pas, parce que nous on n'avait pas de dialogue avec les soignants, on était très seuls, il y avait tout était médication. J'ai rien contre la médication, mais ça peut pas être que ça. Et ce que raconte le film, c'est que les mains tendues quand on les a pas, on les cherche, on les trouve. Et quand on est prêt à entendre quelque chose, on l'entend, même si c'est au milieu d'un discours comme ça, un peu abscon, on entend, on saisit. Et ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer aux enfants et aux parents. Il y a un moment où les solutions, on les attrape, on les trouve pour soi. Ne t'inquiète pas, ça passe. Voilà. Et si ça passe pas, si tu trouves pas un endroit pour t'exprimer et même si c'est pas pour en faire son métier, je veux dire la danse, la sculpture, la peinture, le sport, pour le mot est pas très joli, mais se purger. Même si tu trouves pas ça, tu finiras par saisir une phrase, par faire une rencontre et après ces grosses vagues qu'on a passées, même si on les revit régulièrement, on va pas se mentir, c'est pas non plus, c'est pas magique. Mais on peut les transformer, on peut en faire quelque chose et les partager.
Alors c'est drôle parce que vous dites que vous avez écrit votre livre pour l'adolescente que vous étiez.
Oui.
Le film, c'est vraiment pour les autres, c'est pour les jeunes,
oui.
Pour leurs proches, pour leurs parents, leurs grands-parents, tous
oui.
Ceux qui peuvent être sensibilisés.
Oui, quand je suis sortie, moi, de l'hôpital, comment en parler ? Comment en parler ? J'avais honte. Impossible d'en parler à l'école.
Ah oui, à vos amis, vous en avez pas parlé ?
J'en ai parlé à ma meilleure amie, mais j'avais le sentiment que c'était, j'avais pas les mots. Il y avait pas de ref, comme disent les jeunes aujourd'hui. Mmh. Et maintenant, voilà, j'espère que ce film sera une ref.
Ça permettra de parler, de libérer cette parole.
Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs aux avant-premières. Beaucoup de mamans viennent me voir en disant, ben voilà, moi, ma fille a été aussi... moi, j'étais de l'autre côté de la porte. Je l'ai vue partir, cette scène que vous avez fait entendre aujourd'hui. Je l'ai vécu de l'autre côté, où ça peut être aussi des jeunes qui viennent me dire « Mais moi, je voulais faire psychiatrie, je vais choisir pédopsychiatrie. » Et c'est très important parce qu'on manque
cruellement
de pédopsychiatres. Alors, le professeur Franck Bélivier m'a dit « Oui, c'est un film important parce qu'il va revaloriser la filière. »
Et susciter
des vocations. Ouais.
Votre film débute sur un atelier d'écriture. Vous en donnez notamment à la Maison de Solène du professeur Marie-Rose Moreau. Vous pouvez nous parler de ces ateliers d'écriture, ce que ça a déclenché chez vous, chez ces enfants ?
Oui, je remercie beaucoup le professeur Marie-Rose Moreau parce que c'était un moment très, très fort. Je les ai donnés pendant des vacances scolaires. Ils n'avaient pas d'activité à ce moment-là. Et, Et ce qui s'est passé, c'est ce que je raconte dans le film. Paraît-il que c'est un magnifique exemple de père aidance. Je ne connaissais pas ce que signifiait ce mot père aidance.
On va y revenir tout de suite.
Voilà, mais quand je suis arrivée et que j'ai vu tous ces visages fermés, les poings serrés, une jeune fille qui était tout au bout de la pièce, le dos tourné, et je ne savais pas quelle porte d'entrée, comment arriver vers eux, comment leur donner envie de se mettre à écrire. C'était pas simple. Et j'ai dit cette phrase dès le début. Je dis, voilà, vous savez, moi aussi, j'ai été dans un lieu comme le vôtre quand j'avais votre âge. Et là, tous les visages se sont levés. Il y a eu une connexion qui s'est établie tout de suite. Et on a pu faire un travail fantastique.
Effectivement, et cette père aidante, donc vous avez découvert que vous étiez père aidante, ça existe depuis longtemps pour les maladies chroniques, pour les diabétiques, pour les cardiaques, parce que ça aide effectivement que d'anciens patients puissent se faire comprendre, parce qu'ils ont vécu ça déjà, puissent aider les nouveaux patients. Oui. C'est récent en psychiatrie, hein.
Oui, c'est très récent et on connaît un peu maintenant, grâce à cette année de la santé mentale où on a interviewé beaucoup de personnalités déterminantes par rapport à ça, c'est la Maison Perchée. Qui va s'aimer un peu dans toute la France maintenant. La Maison Perchée, c'est un lieu... Alors, pour les adultes, il faudrait vraiment créer l'équivalent pour les enfants où voilà, des personnes qui sont en souffrance viennent chercher l'expertise de ceux qui s'en sont sortis. Et effectivement, on est du même côté de la barrière, pour ainsi dire. On a quasiment pas besoin de se parler. Vous voyez, moi, il a fallu une phrase et puis voilà, c'était une porte ouverte et après, il y avait une, je sais pas comment dire, une relation de confiance et de reconnaissance. On se reconnaît et on sait de quoi il en retourne immédiatement.
Avec votre histoire à 14 ans et votre expérience aujourd'hui, vous diriez quoi aujourd'hui à un jeune de 14 ans en souffrance?
Mais ça, ne t'inquiète pas, ça passe. Je sais que ça peut sembler long, et puis il y aura des pas en arrière. Hein. Pour 1000 qu'on fait en avant, il y en aura 999 en arrière, mais c'est toujours un de fait. Et puis, surtout, ça vaut le coup, ça vaut la peine, parce que derrière, je parlais de ces grosses vagues hein, qu'il faut franchir, que ça soit la dépression, l'angoisse, et même la maladie. Nicolas Demorand l'a bien montré, maintenant on a fait d'énormes progrès en médication, on peut vivre avec. C'est important de le dire parce que il y a ce mot résilience qui a été un peu dévoyé. Pourtant, c'est un très beau terme que Boris Cyrulnik a inventé. Mais aujourd'hui, il y a cette injonction à résilience efficace, rapide pour une société performative. Et non, on peut aussi prendre le temps. Donc, je dirais aux jeunes, prenez le temps. C'est peut-être une des clés d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte grâce à un journaliste qui m'a dit peut-être que vous donnez une des clés quand le personnage d'Elisabeth sort de l'hôpital. Elle trouve que tout va trop vite, que tout est trop bruyant, tout est agressif. Aider les enfants à décélérer un peu et à poser leur téléphone où ils scrollent et où tout va très 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 rapidement quoi. Même nous, l'information nous dépasse et nous dévore. Prendre du recul par rapport à ça et se dire qu'il y a des solutions. Vraiment, il y a des solutions et le film va vers cette lumière. D'ailleurs, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur la colorimétrie avec la chef opératrice Irina Loubchansky. On a essayé de restituer cette... puisque je ne voulais pas que ça soit choc, je voulais transcrire cet internement, cet enfermement avec des sensations. C'est un film qui parle beaucoup de sensations. Et au début, on est dans une bulle comme ça, un peu bleutée. Et puis, toutes les couleurs reviennent petit à petit.
Alors, vous devenez une lanceuse d'alerte hein, et un porte-drapeau, on peut le dire. Au générique de votre film, on peut lire « Un jeune sur deux ne peut pas être soigné faute de structures adaptées de personnel ». C'est tout à fait confirmé par les chiffres. Et je le disais en introduction, la santé des jeunes se détériore, et notamment, effectivement, celle des jeunes filles.
Surtout des jeunes filles,
c'est
oui.
Très impressionnant, puisque on sait que les dépressions et gestes suicidaires surviennent plus souvent chez les filles et plus tôt dans la vie, dès 10-11 ans. Le professeur Marie-Rose Moreau, dont on parle, qui dirige la Maison de Solène, que j'ai reçu récemment dans un hors-série « Santé mentale des jeunes, l'état d'urgence de carnet de santé », estime que c'est lié au fait que les filles expriment moins leur souffrance jusqu'à un geste fatal et qu'on les écoute moins que les garçons. Écoutez-la.
Pour que les symptômes des filles soient pris au sérieux, il faut en faire plus que pour les garçons. Mmh. Par exemple, il y a une étude INSERM qui vous preniez des enfants qui ont fait un passage à l'acte suicidaire, des ados, pardon, et vous leur demandez à qui ils en ont parlé. Eh bien, les garçons, ils en ont parlé à 3 personnes et les filles à 4 personnes. Hein, c'est-à-dire, donc
on les écoute moyenne. Moins. On les écoute moins que les garçons.
Oui, on les écoute moins, on les prend moins au sérieux. On considère, alors ça c'est une sorte d'aberration absolue, que parce qu'elles verbalisent plus que les garçons, elles seraient moins en danger. Hein, puisqu'elles ont dit qu'elles allaient passer à l'acte, elles vont pas le faire. Ben non, si elles le disent, c'est qu'elles vont le faire.
Alors, ce hors-série Santé mentale des jeunes, l'état d'urgence de Carnet de santé est à écouter en totalité, bien sûr, sur France Culture. Vous réagissez comment à ça? Ça vous parle?
Oui, complètement. Et j'aimerais qu'il y ait des études plus poussées là-dessus. Je connaissais pas cette étude de l'INSERM, mais grâce à la Fondation pour la recherche médicale, j'avais été voir Astrid Chevance à l'Hôtel Dieu, qui est une chercheuse en épidémiologie. Et il y a pas de grandes recherches communes, parce que ce phénomène des jeunes filles qui sont en première ligne et qui sont d'ailleurs qui occupent le plus de lits dans les centres de dans les maisons des adolescents et les services de pédopsychiatrie, y a pas d'études communes, c'est dans tous les pays. Voilà, mais il n'y a pas d'études communes.
C'est pour pousser aussi à cette recherche que vous vous engagez pour la santé mentale des jeunes auprès de la Fondation pour la recherche médicale?
Absolument. On a l'idée que la Fondation pour la recherche médicale, c'est que les médicaments ou c'est... Non, il y a aussi des études qui sont fondamentales. Il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe pour ces jeunes filles. Est-ce que c'est qu'elles ont davantage de pression physique avec les injonctions des influenceuses et de la beauté, etc., qui pèsent davantage sur leurs épaules? Est-ce qu'il y a plus de harcèlement à l'école pour les jeunes filles? Est-ce que on les écoute moins parce que une jeune fille, elle est plus dans l'émotion, c'est ses hormones, elle a ses règles, voilà. Est-ce que c'est et ça c'est j'ai envie de dire c'est pas une question mais c'est une réponse déjà, davantage victimes de violences sexuelles et sexistes, donc ça ça correspond, les chiffres correspondent en réalité.
Alors évidemment, puisque nous sommes toutes les deux marraines, j'en profite pour faire un appel aux dons, bien évidemment, pour la Fondation pour la recherche médicale. Les chercheurs et donc tous les patients ont besoin de vous, frm.org. On va continuer cette interview juste après la chronique avec Science. Aujourd'hui, Alexandra Delbotte dévoile les nouveaux résultats d'un implant pour redonner la vue à des patients atteints de DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Comment un implant permet de restaurer la vision de patients atteints de DML? La DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette perte progressive de la vision est due au vieillissement de l'organisme, mais aussi à certaines prédispositions génétiques et à des facteurs environnementaux tels que le tabac. Ce qu'il se passe, c'est une destruction de la macula, la partie centrale de la rétine. Cette macula est indispensable à la vision fine, celle qui permet de lire et de reconnaître les visages, alors que la vision périphérique est conservée. Il existe en fait deux pathologies distinctes. La forme humide, où des vaisseaux sanguins prolifèrent de façon anormale. Elle se soigne bien, mais ne concerne qu'une minorité de patients. La forme sèche, elle, la plus courante, entraîne la destruction des photorécepteurs. Ces cellules qui transforment la lumière en signaux électriques, là, aucun traitement ne permet de ralentir la maladie. En revanche, depuis une dizaine d'années, est développé un implant pour restaurer la vision. Serge Picot est directeur de recherche à l'INSERM et directeur de l'Institut de la Vision.
Il faut imaginer que c'est en fait un panneau photovoltaïque, un peu comme ce qu'on a sur les toitures. L'idée, c'est qu'il y a des photodiodes qui vont transformer la lumière en activité électrique. Et comme c'est un petit panneau de silicium, en fait, la lumière la plus efficace, ce sont les infrarouges. Donc, on va transformer la lumière infrarouge en une activité électrique qui va être libérée au niveau d'électrodes. Ça, c'est la partie implantable, donc qui fait en fait 2 mm par 2 mm avec 30 microns d'épaisseur, donc c'est vraiment un tout petit palais, il n'y a pas du tout de fil et c'est le côté assez exceptionnel de cet implant. Et puis en fait après pour activer cet implant, eh bien il va falloir stimuler la rétine avec en fait une lumière infrarouge. Donc le patient va porter une paire de lunettes sur lequel il y a un petit barreau qui passe devant le verre et devant il y a une caméra qui va acquérir des images. Et puis, en fait, ces images vont être transformées en images infrarouges par un petit processeur de poche. Et donc, derrière le petit barreau qui passe devant l'œil, en fait, il y a un vidéoprojecteur en infrarouge qui projette l'image sur la rétine et sur l'implant.
Cet implant a d'abord été développé chez des rats, puis testé chez des primates et finalement chez l'humain. 5 patients avaient déjà reçu cet implant, avec succès, en France, à Paris, à l'hôpital de la Fondation Rothschild et au 15-20, donc avec le même chirurgien et la même équipe qui suivait la procédure. L'enjeu est donc de répéter l'exercice avec d'autres équipes dans d'autres hôpitaux pour s'assurer que l'on peut reproduire ces résultats avec davantage de patients. Et c'est ce qu'a fait cette nouvelle étude parue dans le New England Journal of Medicine avec au total 32 patients dans 17 centres hospitaliers en Europe. Et tous les patients qui ont reçu l'implant étaient au départ considérés comme aveugles. Et c'est important pour comprendre les résultats. Les personnes atteintes de DMLA ne perdent pas nécessairement toute la vue. Vous savez qu'elle s'exprime en dixièmes. La vision moyenne, c'est 10 sur 10. C'est une moyenne, donc on peut parfaitement être au-dessus. En dessous, en revanche, il y a des catégories. Sous 3 dixièmes, avec correction, donc avec des lunettes, si on a 3 dixièmes, c'est une déficience visuelle moyenne. À 1 dixième, c'est une déficience visuelle sévère. Et ensuite, on change d'échelle. Sous la barre des 1 vingtième, c'est une déficience visuelle profonde. C'est le début de la cécité dite légale. Et cela va jusqu'à 1 cinquantième. Tous les patients inclus dans cette étude étaient considérés comme aveugles. Et résultat, avec l'implant, 80% d'entre eux passent juste au-dessus du 1 vingtième.
Ah oui, c'est très bas, mais c'est pour ça qu'il y a encore une marge de progression qui est très importante. Mais déjà, pour un patient qui était aveugle, déjà avoir une vision de 1 vingtième, c'est déjà très bien. Quand on regarde le panneau de lettres chez l'ophtalmologue, les lignes, il y a 5 lettres, 80% de ces patients retrouvent une vision d'au moins 2 lignes, 10 lettres, voire en fait beaucoup plus. La moyenne est à peu près vers 25 lettres. Donc, on se rend compte, en fait, qu'ils lisent 5 lignes de plus qu'au départ, hein, en moyenne. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, il y a des patients qui arrivent à lire non seulement des lettres, mais des mots, voire relire des textes complexes. Donc, on se rend compte de la différence obtenue avec les implants.
Les patients restent malvoyants, mais sortent de la cécité. L'autre partie de l'étude s'intéresse à la sécurité du dispositif. 26 événements graves ont été observés, tous étaient attendus avec la chirurgie, et ces effets secondaires ont été traités ou se sont résolus spontanément. Et donc, la balance bénéfice-risque est considérée comme favorable. La prochaine étape, c'est la commercialisation, avec des autorisations européennes. L'appareil développé par la société Science Corporation coûte environ 100 000 euros, et avec près de 5 millions de patients atteints de DMLA avec cécité dans le monde, il y a un enjeu financier non négligeable. Avoir un large public permettrait de rentabiliser l'investissement, c'est certain, mais ce que ce chercheur espère, c'est que l'implant soit proposé à d'autres pathologies de l'œil, comme la rétinopathie pigmentaire, moins commune, mais où tous les patients finissent par atteindre une cécité sans aucune vision périphérique.
Isabelle Carré, dans votre engagement pour la santé mentale des jeunes, si vous avez un rêve, que quelque chose existe qui n'existe pas aujourd'hui.
Ah oui, comme on est, merci de poser cette question, comme on est l'année de la santé mentale et qu'il reste quand même peu de mois avant cette fin d'année de la santé mentale, j'aimerais dire que vraiment sur la pédopsychiatrie, il y a encore tant à faire. C'est pas normal que on dise à un enfant qui fait l'effort de venir avec ses parents dans une maison des adolescents, qu'on lui dise reviens dans 6 mois, voire dans un an, parfois dans deux, les CMP sont pleins à craquer. Il y a 10 départements en France qui n'ont pas de place, de lit en pédopsychiatrie. Il y a une disparité territoriale énorme. Alors maintenant, je voudrais donner une note d'espoir. Le jour de la sortie, donc le 12 novembre du film, Céline Gréco a ouvert un centre d'appui à l'enfance qui s'appelle Centre Asteria, pour recevoir les enfants placés, parce qu'ils sont très nombreux à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils sont très nombreux dans ces centres de pédopsychiatrie. Pour donner un chiffre, les enfants placés représentent, de la génération des 0 à 18 ans, représentent seulement 2% de cette population-là, et pourtant, ils occupent les 2/3 des lits en pédopsychiatrie. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'est capable de faire une femme, qu'elle fait cette levée de fonds extraordinaire toute seule...
On peut faire plus,
tous ensemble. On peut faire plus, et surtout... Avec de tels chiffres de désespérance, le minimum, ça serait un ministère de de l'enfance.
Voilà, message passé. Et d'ici là, surtout, allez voir Les Rêveurs, c'est en salle, c'est magnifique. Allez-y en famille, parlez-en ensemble, c'est magnifique. Vraiment, j'ai été bouleversée. C'est à voir absolument. Merci beaucoup d'être venue, Isabelle Carré. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de l'émission. Et à Swat Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.